Ciné 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, les trotskistes.
Il est vrai que dans les années 60, j'ai marqué de l'intérêt pour les idées trotskistes et que j'ai noué des relations avec l'une des formations de ce mouvement.
D'histoire. Depuis les révélations sur le passé de Lionel Jospin, on voit des trotskistes ou d'anciens trotskistes partout, dans les partis politiques, les syndicats, les médias, au gouvernement et même, il fut un temps, dans les coulisses de l'Élysée. Il faut dire que leur méthode, leur stratégie, leur comportement sectaire, leur réseau international et leur goût maladif du secret entretiennent toutes les spéculations. Mais si on parle beaucoup des trotskistes, on connaît moins leur histoire, qui est surtout celle de leur division. Car il y a presque autant de trotskisme que de trotskistes. Et il est loin le temps où, dans son exil, l'ancien compagnon de Lénine rêvait de rassembler dans la 4e internationale tous ceux qui s'opposaient déjà à la caricature stalinienne de leurs idéaux communistes. Léon Trotsky, en 1938.
Dear comrades and friends,
chers camarades en France,
I hope that this time my voice will reach you and that I will be permitted in his way.
J'espère que cette fois vous entendrez ma voix et qu'il me sera ainsi permis de participer au congrès de la fondation de la 4e internationale. Les bolcheviks léninistes, les pionniers internationaux, nos camarades dans le monde, cherchent la voie de la révolution en tant qu'authentiques marxistes et pas avec leurs sentiments, mais avec leur analyse objective des événements.
Christophe Nick, bonjour.
Bonjour.
Alors, sur la couverture du livre Les Trotskistes que vous venez de publier chez Fayard, il y a évidemment la photo du père fondateur Trotsky que l'on vient d'entendre annoncer la création de la 4e internationale, celle dont viennent tous les mouvements. Trotsky, c'était en 1938, c'était bien avant Mao, la première scission dans le monde communiste, Christophe Nick.
Oui, en fait, Trotsky avait perdu le pouvoir. Il a perdu le pouvoir définitivement à partir de 26-27, formellement dès la mort de Lénine. C'est donc tout d'un coup l'homme qui a conçu la prise du pouvoir avec Lénine, l'homme qui réussit, l'homme qui fonde l'armée rouge, va se retrouver être le premier dissident officiel. Et c'est ça toute la magie et le mystère du trotskisme, c'est que d'un côté, c'est une pensée franchement militaire, de technique de prise du pouvoir pour être le plus efficace possible pour que la révolution triomphe. Et très vite, ça devient une pensée dissidente du communisme. C'est-à-dire comment l'opposition de gauche, il s'appelle comme ça, l'opposition de gauche au cours stalinien et à l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, etc.
Et des victimes du stalinisme, il faut rappeler quand même que parmi les victimes du stalinisme, il y a surtout des trotskistes, que ce soit en Russie, que ce soit pendant la guerre d'Espagne. Trotsky lui-même va être assassiné par Staline en 1940. Je crois qu'il se méfiait beaucoup, il craignait beaucoup l'aura, le charisme de Trotsky, Staline.
Alors, il faut bien se souvenir que jusque vers 1933-1934, les deux hommes qui incarnent la révolution sur Terre, c'est Lénine et Trotsky. Et donc, Staline va, pour des milliards de raisons qu'on trouve dans le livre, mais va mettre en place, avec les moyens d'un État énorme, une chasse à l'homme mondiale des trotskistes. Et à l'intérieur de l'URSS, va justifier les purges des années 30 par une détrotskisation. Alors, c'est évidemment... être Trotsky, c'est être le traître, c'est en gros être le juif, c'est être le saboteur, celui qui détruit la révolution. Donc, on liquide. Alors, dans le monde, ce sont les services spéciaux soviétiques qui cherchent l'entourage le plus proche de Trotsky et ils sont liquidés les uns après les autres. En Espagne, pendant la guerre d'Espagne, c'est tous les amis du PUM. Le PUM, c'est le grand parti
ouvrier,
de gauche.
L'éducation marxiste,
voilà,
oui.
qui trotskiste, oui. Alors que le Parti communiste espagnol n'est rien à l'époque. Mm-hmm. Donc ils vont être liquidés. Et puis, pendant la guerre, même en France. Il y a des trotskistes français qui sont liquidés dans les maquis par les communistes français.
Alors on s'en méfie, que c'est comme des traiteurs qui n'ont jamais accédé au pouvoir nulle part ou presque jamais.
Sauf les premières années de la Révolution. Trotsky au pouvoir, ça existe. Et c'est Kronstadt et c'est pas rien.
Non, mais plus tard, après la guerre.
Alors le gag, c'est ça. C'est que c'est une pensée de la prise du pouvoir qui prend jamais le pouvoir, sauf dans deux cas. La première, c'est au Sri Lanka, la fin des années 50, et du coup, ils vont tout de suite être exclus, d'ailleurs, parce qu'on va pas au pouvoir quand on est trotskiste, c'est pas bien. Et puis aussi en Bolivie, pendant quelques semaines, en 1971, il y a une vraie révolution, ils prennent le pouvoir, etc. Et c'est massacré, évidemment.
Alors, il faut dire que ce sont des mouvements très, très marginaux, parce que divisés, la maladie endémique des trotskistes, c'est la scission. Hein. Je crois qu'il y a 19 organisations qui se réclament du trotskisme en France aujourd'hui.
C'est bien possible. Moi, il y en a tellement. À la fin, chacun a sa propre organisation. J'ai rencontré les anciens trotskistes qui sont des personnages merveilleux qui traversent tout le siècle. Ils peuvent pas s'empêcher chacun d'avoir leur petit bulletin de liaison, leur petite lettre aux amis, des trucs à 200, 500 exemplaires. Et bon, du coup, le trotsky vit par eux aussi. Alors, c'est une planète en soi.
Alors, il y a en France, on va pas toutes les énumérer, mais il y a en France, évidemment, trois organisations trotskistes qui se distinguent des autres. Les plus importantes, le Parti des Travailleurs de Pierre Lambert, d'où venait Lionel Jospin, la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, et puis bien sûr, Lutte ouvrière, la plus connue de toutes, grâce à sa candidate à toutes les grandes élections présidentielles, Arlette Laguiller, que l'on entend ici aux élections de 1995.
Je ne serai pas élue, certes, mais Robert Rune ne le sera pas non plus, et Lionel Jospin, très probablement pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de voix sur mon nom et sur le programme que je vous présente feraient plus de bruit, se verraient plus, inspireraient plus de crainte au patronat et aux hommes politiques que toutes les voix recueillies par Robert Rue ou par Jospin.
C'était Arlette Laguiller en 95, cela dit, elle n'avait pas tort, hein, elle a eu plus de 5% des voix, c'est un record absolu chez les trotskistes.
Oui, et c'est surtout, là, ce qui va se passer cette année, le confirme amplement, c'est que tout d'un coup, les trotskistes, c'est un phénomène unique au monde, deviennent un enjeu de pouvoir en France. C'est-à-dire que ce vote compte, là ils arrivent à 7%, ils vont être devant le PC, probablement devant les Verts. Donc il y a quand même, au moment où toutes les idées bolcheviques deviennent complètement mortes pour la Terre entière, son courant le plus de gauche et le plus puriste et le plus militaire a des succès.
Alors on y reviendra, Christophe Nick, mais bon là on vient de l'entendre, on n'a pas entendu le célèbre travailleur, hein, je crois qu'elle prononce parfois jusqu'à 72 fois par discours, hein, c'est assez étonnant. C'est la plus ancienne des organisations trotskistes en France, Christophe Nick, Lutte ouvrière.
Oui, elle se
fait. Ça ne s'appelle pas Lutte ouvrière d'ailleurs, c'est le journal.
Oui, son vrai nom est toujours le même, c'est l'Union communiste internationaliste. Donc c'est fondé en janvier ou février 40, je ne sais plus bien, par deux jeunes d'origine roumaine, dont le vrai nom est David Corner, avec son amie Louise. Le pseudonyme de Corner est Barta.
Beaucoup de pseudos, hein.
Forcément. De toute façon, c'est conspiratif tout ça.
Mais ça tient peut-être aux persécutions de l'époque stalinienne, enfin des années 30.
Ça vient d'avant
40,
même. Ouais. C'est la tradition bolchevique, c'est-à-dire que l'idée même du bolchevisme, c'est de faire des partis de professionnels de la révolution, qui doivent vivre dans la clandestinité et être prêts 24 heures sur 24 à partir à l'assaut des palais, etc. Donc, on est dans la pure. Aujourd'hui, c'est totalement romantique, mais à l'époque, on est dans effectivement de la paranoïa totale, on est suivi et tout.
Mais ce qu'il y a d'étonnant avec Lutte ouvrière, c'est que malgré la visibilité de sa candidate perpétuelle, si je puis dire, au présidentiel, c'est un mouvement, des mouvements les moins connus, les plus secrets du mouvement trotskiste.
Ce qui m'a le plus amusé, c'est de me rendre compte qu'aux renseignements généraux, ils ont découvert la vraie identité des chefs de Lutte ouvrière en 98 dans l'Express et dans Libération. Jusque-là, ils avaient une liste de trois noms possibles et ce n'est aucun des trois. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas réussi à pénétrer, ils s'en foutaient pas, hein. Ils ont fait des efforts, mais c'était quelque chose qui leur était complètement opaque. Alors son dirigeant en fait dirige ce parti, c'est le plus vieux dirigeant politique français, il tient ce parti depuis 56, ah non c'est pas vrai, Lambert depuis 53, donc vous voyez. Mais oui, effectivement il y a un noyau dur regroupé dans cette UCI, à l'intérieur de ça, eh ben, les règles sont des règles qui sont codifiées du début du siècle, et bon ben on se reproduit pas, hein, on n'a pas le temps de faire des enfants, le mariage de toute façon c'est petit bourgeois, mais le principe de la clandestinité, Victor Serge l'expliquait très bien, c'est pour rester purement révolutionnaire, car quand on veut contester radicalement une société, on peut pas vivre dedans. On est obligé d'être à l'écart.
Alors c'est quand même une grande famille, que ce soit chacune des organisations trotskistes, mais notamment lutte ouvrière. C'est un peu le sentiment qu'on a en vous lisant. C'est le côté copain aussi, hein. Ils sont fermés au monde extérieur, mais ils vivent ensemble en permanence.
Oui, et il n'y a pas de logique externe. Il n'y a qu'une logique interne. Et c'est pour ça que beaucoup parlent de secte. C'est-à-dire que c'est vrai que dès que les portes s'ouvrent, à l'intérieur, on est asphyxié. L'air du dehors est mauvais. Donc on reste entre soi, on cultive le purisme, au point d'en perdre contact avec la réalité. C'est des gens qui, quand ils arrivent à 50 ans et tout, n'ont plus aucune possibilité de prendre un travail normal. C'est des endroits très étranges où en plus il se passe rien. C'est-à-dire que lutte ouvrière, à part faire une fête une fois par an et une campagne électorale tous les 7 ans, ça n'existe pas. C'est une machine qui se reproduit à rien.
Alors une fête précisément, on parlait de celle de lutte ouvrière qui se produit une fois par an et où lutte ouvrière pour une fois accueille les autres familles trotskistes. Je vous propose d'écouter France Inter le 22 mai 1995 à la fête de lutte ouvrière.
À la fête de lutte ouvrière, il y a des spectacles, des stands de jeux mais aussi des discours. À 3 semaines des élections européennes, Alain Krivine et Arlette Laguiller ont sonné la mobilisation générale autour de leur liste commune lutte ouvrière, ligue communiste révolutionnaire.
Le patronat commence à s'inquiéter un peu du développement de l'extrême-gauche. François Hollande a déclaré l'autre jour à un quotidien qu'un succès de notre liste le chagrinerait. Eh bien, camarades, faisons en sorte que le 13 juin, on puisse chagriner Hollande, faire reculer le baron Seyère, écraser les Le Pen et les Maigret et redonner confiance aux travailleurs.
Et sous un soleil à peine voilé, les quelques milliers de personnes présentes ont alors entonné l'Internationale derrière Arlette Laguiller.
C'est la fête de l'Outre-Ouvrière en 99, c'était juste avant les élections pour les élections européennes. Là encore, un score de plus de 5%, 5 députés au Parlement européen. De quand date l'organisation d'Alain Krivine que l'on vient d'entendre? On vient d'entendre la fête de l'Outre-Ouvrière, mais lui c'est la LCR, autre grande organisation trotskiste. Enfin, si on peut dire, je ne sais pas combien elle compte de militants, mais une des trois grandes organisations trotskistes en France.
Oui, alors c'est en fait là le tronc commun trotskiste, dont lutte ouvrière n'a pas fait partie, n'a jamais reconnu même la 4e internationale. Là, le tronc commun du Parti communiste internationaliste se coupe en deux en 52-53. Entre deux grandes familles, l'une qu'on va appeler Pabliste, du nom de son dirigeant, Pablo, qui est un grec, Michel Raptis, et l'autre les Lambertistes, autour de Pierre Lambert. Les Pablistes, eux, dont la Ligue est le continuateur,
les communistes révolutionnaires,
voilà, avaient dans l'idée que la Troisième Guerre mondiale allait arriver, que ça allait être la fin du monde, et qu'une révolution mondiale s'en sortirait, et que donc le meilleur moyen pour exister et pouvoir faire quelque chose était d'aller dans les partis communistes. Donc on fait de l'entrisme, on se dissout complètement dans les PC. Alors c'est ce qui va faire que Alain Krivine va exister, recruté à l'Union des étudiants communistes au début des années 60, sur le fond...
Clientèle essentiellement étudiante et lycéenne d'ailleurs.
Oui, il y a en fait une trentaine de militants professionnels qui, à la fin des années 50, vont recruter des centaines d'étudiants à l'intérieur de l'UEC, vont scissionner et fonder après mai 68 ce qu'on va appeler la Ligue communiste, dissoute en 73, refondée en Ligue communiste révolutionnaire.
Dissoute, je crois que c'était en même temps qu'Ordre Nouveau. Il y avait un service d'ordre très très impressionnant à l'époque à l'LCR. Aujourd'hui, c'est une organisation la plus ouverte, je crois, du mouvement trotskiste.
C'est-à-dire qu'ils ont toujours combiné les deux. Le mot d'ordre pabliste, c'est un peu abscon, mais bon, on peut se l'expliquer, c'est aller vers le mouvement réel des masses. En gros, tout ce qui bouge et qui est contestataire dans la société, c'est bon pour la révolution, donc on y va. Quel que soit, on se pose pas de questions, on y va. Rock'n'roll, écolo, tout ce qui bouge, ce qui va les mettre en bonne phase en 68. Bon. Et à côté de ça, c'est l'idée de Trotsky, du complot et de la subversion pour prendre le pouvoir, matinée de Guevara. Et donc, il nous faut un appareil militaire, puisque mai 68 est une espèce de répétition générale de la Grande Révolution, on a besoin de former des troupes prête à prendre d'assaut la République, et ça va être un appareil secret militaire qui s'appelle la Commission Technique, la CT, dirigée par aujourd'hui le cinéaste Romain Goupil et son ami Michel Recanati. On avait vu ce fameux film Mourir à 30 ans qui racontait ça, mais qui de 69 à 73 va effectivement créer une petite troupe de 500 à 800 commandos. Absolument inouï, c'est inouï, hein. Ils rentrent dans les ambassades.
Alors aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, hein. C'est une organisation très ouverte sur les autres partis de gauche, très sensible aussi au mouvement de la société, ce que ne sont pas les autres mouvements trotskistes.
Oui, eux, si vous voulez, la Ligue se revendique du féminisme, de l'écologie, de l'autogestion et de tous les grands mouvements démocratiques de dissidence des pays de l'Est. C'est un peu compliqué, mais on s'y retrouve. Alors qu'effectivement, l'autre branche, lambertiste, elle prend comme tradition le vieux mouvement ouvrier français, ça, on remonte au Parti ouvrier français du 19e, hein, et se retrouve dans Force ouvrière, se retrouve dans une tradition prolétaire totalement différente.
Alors cette branche lambertiste, c'est la troisième organisation importante du trotskisme, le Parti des travailleurs, aujourd'hui l'ancienne OCI, d'où venait Lionel Jospin, et qui était dirigée par le très mystérieux Pierre Lambert, que l'on écoute ici pendant un congrès en 1972.
1200 trotskistes se sont réunis à Versailles aujourd'hui pour le congrès de l'Organisation communiste internationaliste. Les militants de la 4e internationale ont manifesté tout à la fois leur opposition farouche à la majorité et leur scepticisme devant les tentatives de regroupement à gauche, comme un de leurs leaders, Pierre Lambert, l'a expliqué à Suzanne Gauthier.
Nous disons, aucun parti se réclamant de la bourgeoisie ne peut ouvrir de solution. Nous revendiquons un gouvernement qui ne saurait que représentatif de la classe ouvrière et de ses organisations, donc un gouvernement des organisations ouvrières unies. Si donc on ne dit pas, et on ne le dit pas à l'étape actuelle, dans les partis se réclamant de la gauche, qu'on lutte pour un tel gouvernement, c'est donc qu'on accepte que dans ce gouvernement siégeront des représentants des partis de la bourgeoisie.
Alors c'était Pierre Lambert en 1972, à l'époque ça s'appelait l'OCI, maintenant c'est le Parti des travailleurs. Troisième importante organisation trotskiste. Qu'est-ce qui la distingue des autres? Je crois qu'elle est. D'abord, il y a le goût du secret. Hein. Pierre Lambert, c'est un pseudonyme.
Mais comme les autres. Hein. Ce qui les distingue, c'est qu'en fait, eux, ils puisent leur tradition dans la social-démocratie. Alors que la Ligue communiste vient de l'UEC. Mm-hmm. Et donc, a une vraie tradition du Parti communiste. Oui. Donc, c'est une toute autre tradition. Les lambertistes, en fait, se réfèrent à Trotsky dès le départ. Lui, quand il arrive en France en 1933, qui rencontre les dirigeants de la SFIO. Et ce fil va rester, est incarné là. Ce sont des sociaux démocrates révolutionnaires, si vous voulez. C'est absurde, et les trotskistes vont hurler de rire en entendant ça, mais en gros, il y a de ça. C'est pour les staliniens, c'est ce qu'il y a de pire. Et il faut combattre très violemment les staliniens qui liquident la révolution. Donc, dans le mouvement ouvrier peut-on aller? Eh bien, ce sera dans la social-démocratie. Il ne faut pas oublier que dans toute l'histoire de la gauche du XXe siècle, les trotskistes ont toujours été à la direction du Parti Socialiste. Donc, il n'y a rien de nouveau avec Jospin, si vous voulez. En 1945, à la Libération, à côté de Guy Mollet, il y a quatre trotskistes à la direction de la SFIO. Mmh. Et ça ne pose pas de problème, c'est la même famille. Dans les années 70, Mitterrand, construisant son nouveau Parti Socialiste, va s'adresser aux lambertistes. Et leur dit, venez, entrez chez nous. L'entrisme n'est pas ce qu'on en a dit aussi mystérieux. C'est beaucoup plus un entrisme de courtoisie. Mmh. On a besoin de vos jeunes. Vous avez besoin de visibilité et de moyens. Entendons-nous, faites notre aile gauche. Ce qui, pour Mitterrand, est très pratique. Ça lui permet de déborder le PC, ce qui est son problème principal. Et puis de ne pas être enquiquiné par les vieux caciques de la droite, de sa droite à lui, qui ne veulent pas le programme commun. Donc il a besoin de cette jeunesse. Et Lambert et le Parti étranger ne s'en rendent absolument pas compte. Ils croient faire les malins en introduisant des sous-marins qui, en fait, servent à tous les socialistes pour gagner le pouvoir.
Alors, sous-marin célèbre, évidemment, c'est Lionel Jospin, dont on a révélé le passé trotskiste en juin dernier, je crois, Christophe Nick, et puis alors qui répondait évidemment à toutes les critiques qui sont tombées sur lui, qui répondait à l'Assemblée nationale. On l'écoute ici, donc, après les révélations sur son passé trotskiste à l'Assemblée nationale.
Il s'agit là d'un itinéraire personnel, intellectuel et politique dont je n'ai en rien, si c'est le mot qui convient, à rougir. Je n'ai donc à formuler ni regret ni excuse. Pourquoi n'en ai-je pas parlé plus tôt? Eh bien, honnêtement, mesdames et messieurs les députés, parce que je crois que ça n'intéressait personne.
Est-ce que c'est la seule raison, Christophe Nick? Ça n'intéressait personne, le fait qu'il n'y en ait pas parlé plus tôt.
Je pense que pendant longtemps, ça n'intéressait honnêtement personne. Mais il y a aussi le fait que, là, ça renvoie à l'histoire des individus, c'est-à-dire des engagements qu'on peut avoir à 20 ans. Quand on a 45 ans, on les regarde avec, ça dépend de chacun, mais on peut aussi avoir de la distance sur soi-même, se dire qu'est-ce que j'étais un petit con, c'est possible.
Mais ce qui est pas, c'est le fait de cette double appartenance aussi, parce qu'on s'est dit, au fond, il est rentré au PS, puis plus tard au gouvernement, en cachant ce passé, peut-être qu'il était resté Trotsky, c'est ça la question qui s'est posée au lendemain
de
ces révélations.
La question s'est posée, mais en même temps, c'est ça tout le problème, c'est que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le Parti Socialiste aussi surveillait les entristes. Et donc, il y avait un type qui s'appelait Loïc Le Floch-Prigent, qu'on connaît bien maintenant, qui a été chargé par Chevènement, dès 71, de repérer qu'est-ce qui se passait chez les trotskistes. Tout de suite, ils savent qui est Jospin. Et Mitterrand le sait, et il est ravi. C'est pas un problème. C'est au contraire, ils sont demandeurs. Donc il n'y a pas de phénomène de taupe ou de tromperie. Évidemment, la grande marche des militants ne le savent pas, mais à la limite, c'est pas le problème. Vraiment, la gauche du PS à ce moment-là est souvent plus à gauche que les gauchistes. Donc c'est un mouvement qui est transcourant, le PS. D'ailleurs, on n'a trouvé aucune trace de trahison, de documents transmis secrètement. Jospin va rencontrer Lambert jusqu'au milieu des années 80, mais franchement, quand vous êtes énarque et que vous avez une vraie ambition de pouvoir, et que tout d'un coup, vous êtes dans le bureau de François Mitterrand, entre Lambert et Mitterrand, il n'y a pas photo longtemps. Quoi, hein.
Ouais. En tout cas, en juin dernier, ça a intéressé beaucoup de gens, cette affaire. La presse en a beaucoup parlé et découvre le Trotsky. Je vous propose d'écouter les journaux de l'époque passés en revue par Stéphanie Duncan.
Oui, donc en juin 2001, ça y est, hein, après des années de rumeurs et de révélations, Lionel Jospin connaît son passé trotskiste, et là, soudain, dans la presse, on ne parle que de ça, du trotskisme. Alors, des personnages étonnants apparaissent, dont on n'avait jamais entendu parler, ou très peu. Par exemple, celui qui affirme avoir entraîné Jospin à l'OCI, Boris Frankel, que le Monde décrit ainsi. Un grand gaillard de 80 ans, vivant dans un pavillon de Montreuil, rempli de livres et de poussière, fils d'un menchevik russe déporté en Sibérie, qui a parcouru le siècle et le mouvement trotskiste. Ou encore, un autre, Jacques Kirchner. Avec Lionel Jospin, dit-il, nous avons durant de longues années partager les mêmes convictions. Jacques Kirchner, affirme Christophe Bourseiller dans l'événement du jeudi, n'est pas n'importe qui. Il occupa naguère sous le pseudonyme de Charles Berg, une fonction dirigeante au sein de l'OCI. Écrivant dans la revue Carré Rouge, il adopte ordinairement l'identité de Charles Jérémy, mais il s'appelle en réalité Charles Stobnisser. Bon, que de blase, me direz-vous. Donc blase, c'est les pseudos en langage trotskiste. Hein.
Jargon trotskiste. Ouais.
Que de mystère aussi.
Jobertiste.
Et au lendemain du outing de Jospin, Daniel Gluckstein, du Parti des Travailleurs, donc le parti de Pierre Lambert, déclare solennellement à la presse « Si un secret nous lie à Lionel Jospin, je ne vous le dirai pas. S'il n'y en a pas, vous avez le droit de penser le contraire. Comprenne qui pourra. » Alors, sur les mystères de la planète lambertiste, certaines rumeurs sont savoureuses, déclare dans le Figaro Philippe Campinqui, ancien président du syndicat étudiant UNEFID. On dit que Pierre Lambert aurait fait tomber De Gaulle en 69 par le biais du syndicat FO. On évoque aussi un possible déjeuner en 95 entre Jacques Chirac, Marc Blondel et Pierre Lambert, encore lui. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, hein, Karl Meus, dans Le Point, constate que les trotskistes, je cite, s'ils n'ont pas réussi à faire les révolutions, ont largement essaimé leur lieu de prédilection en dehors de la politique, les médias, l'université, l'édition, le cinéma, le théâtre, ils sont partout, ils se veulent toujours avant-gardistes. Alors, sur les fondements idéologiques et historiques du trotskisme, notamment l'idée selon laquelle le trotskisme serait par nature anti-stalinien et anti-totalitaire, certains émettent tout de même des petites réserves. Jean d'Ormesson, par exemple, dans le Figaro. Le trotskisme, dit-il, n'est pas une version soft du stalinisme, ce n'est pas la face cachée du marxisme, c'est un radicalisme extrémiste, un totalitarisme. Et l'Humanité, le quotidien du PCF, n'a pas envie non plus de porter seul le poids, le chapeau du stalinisme. Face aux staliniens, s'énerve Luma, les trotskistes auraient toujours eu le beau rôle, quoi qu'il arrive.
Ils sont pas nombreux, les trotskistes, mais ils font sacrément peur, aussi bien au Figaro qu'à l'Humanité, Christophe.
Oui, ils font peur, et ils adorent ça. C'est ça qui fait aussi le fantasme collectif.
Ouais, il est fait aussi par tous les noms. Enfin, là, il était dans ses articles, on dit bien, qu'ils sont partout dans votre livre, on découvre des noms d'anciens trotskistes extraordinaires. Edoui Plenel, Michel Fil, Pierre Arditi, Bernard Guetta, Cambadélis, Romain Goupil, Bertrand Tavernier, Alex Métayer, c'est extraordinaire. Il y a des raisons aussi à ça, à ces fantasmes dont vous parlez.
Non, et ce qui est sûr, c'est que dans les années 70, il y a tout ce qui est la jeunesse révoltée, brillante et intellectuelle, se tourne vers le trotskisme, parce que dans toute la palette de l'extrême gauche, c'est là où il y a disons l'image du joueur d'échecs qui prend les barricades et qui bosse du matin au soir sur des textes imbitables. Bon, donc c'est pas étonnant si une élite politique, au lieu d'aller à l'ENA, va se retrouver dans le trotskisme. Et c'est vrai qu'il y a quelques préfets, hein, aujourd'hui, on en trouve Place Beauvau, on en trouve qui sont passés par cette école. Le problème, c'est, est-ce que trotskiste un jour, trotskiste pour toujours? Je pense pas. C'est ça l'histoire avec Jospin, c'est qu'il a été plus longtemps scout dans sa vie que trotskiste.
Le problème aussi, Christophe Nick, c'est qu'on voit l'inquiétude du PC dans le texte qui a été lu, c'est qu'il progresse par rapport, justement, au Parti communiste. C'est presque la revanche de Trotsky sur Staline aujourd'hui.
Oui, alors là, il faut dire que le PC est au pied du mur, là. Il y a quelque chose de... C'est pour ça que la politique, aujourd'hui, redevient passionnante. Je comprends pas pourquoi on l'est présentée telle qu'elle est, mais on est dans une phase de recomposition à la gauche de la gauche, qui est énorme et qui concerne, en gros, entre 20 et 25% du corps électoral. Le PC s'effondre. Jusqu'où va-t-il s'effondrer? Va-t-il achever son virage social-démocrate et rentrer au PS, comme Guizot l'annonce? Ou va-t-il enfin comprendre que ceux qu'il a tant exclus depuis 70 ans forment ses éléments les plus dynamiques? Va-t-il s'ouvrir à la Ligue ou pas? Ça, c'est le débat. C'est l'avenir d'attaque. c'est l'avenir de Sud, c'est l'avenir de beaucoup de syndicats. Là, les années qui viennent à ce niveau-là vont être passionnantes.
Merci Christophe Tic, en tout cas, de nous avoir rappelé les trotskistes, la nébuleuse trotskiste dans laquelle vous nous faites voyager grâce à votre livre qui est passionnant, qui s'appelle donc Les Trotskistes de Christophe Nic, et publié chez Fayard. À lire également Les Trotskismes de Daniel Ben Saïd qui vient de sortir au PUF dans la collection Que sais-je, ainsi qu'un dossier sur l'extrême gauche dans la revue Histoire du mois de mars qui contient un article de Christophe Bourseiller sur les trotskistes. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0800 92 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gaëtan Colli, Archivina, Raïs Sablankoff, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Les sujets de la semaine prochaine. Lundi, Michel Vinocq nous parlera des débuts du XXe siècle en France, ce qu'on appelait la Belle Époque. Mardi, l'histoire d'un palais très convoité, l'Élysée. Mercredi, la politique antisémite de Vichy. Jeudi, je recevrai Yvon Gattaz, l'ancien patron des patrons au début des années 80 et qui nous parlera des rapports entre François Mitterrand et le patronat. Enfin, vendredi, la France dans la conquête spatiale et l'aventure d'Ariane. À lundi prochain, bonne fin de semaine à tous. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous avez rendez-vous avec Chris.
Sensible, chaque jour quelqu'un de célèbre dans sa rue, dans son quartier, dans sa ville ou plus loin. Quand vous vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous voyez?
Qu'est-ce que je vois? Bon, je crois que je me vois comme je me ressens, surtout. Et j'ai surtout envie d'avoir une image honnête.
Décrivez-moi un très beau matin.
Un très beau matin, c'est me réveiller avec le soleil et les oiseaux et prendre un petit déjeuner tranquille sur une terrasse.
Ça vous arrive souvent?
Plus maintenant parce que je suis à Paris, mais ça m'arrive dès que je le peux, oui.
Qu'est-ce qui est interdit et que vous faites quand même à chaque fois que l'occasion s'en présente?
Tout ce dont j'ai envie de faire, même si c'est défendu.
Bravo. Est-ce que vous êtes célèbre?
Pas du tout.
Pour personne?
Peut-être pour mes enfants.
Ben tiens, pas célèbre, mais certainement à sa place. Alors c'est pas toujours évident de se sentir à sa place dans la vie. Hein. Portrait sensible, aujourd'hui Christian Cos, directeur des services généraux de secours populaire.